Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire, émission au cours de laquelle je reçois Michel Rouche. Michel Rouche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur de plusieurs ouvrages, Les origines du christianisme, paru dans la collection Carré Histoire chez Hachette, et vous avez publié en 1996 une biographie de Clovis. Or, nous commémorons en 2011 l'anniversaire de la mort de Clovis. Il est mort le 27 novembre 511. Donc, une occasion finalement pour nous poser la question de l'apport de ce seigneur barbare et aussi la grande question de la bataille, si vous me permettez cette expression, de l'opposition entre d'une part la romanité et d'autre part les affaires germaniques, puisqu'on va les qualifier ainsi les traditions germaniques. Alors, Clovis s'est converti à la foi catholique, ce qui, politiquement, n'était pas le meilleur des choix.
Effectivement, il était extrêmement dangereux pour lui de passer au catholicisme, étant donné la division de l'époque et étant donné que les rapports de force étaient favorables aux hérétiques ariens, burgondes et wisigoths. Et c'est tout à fait par hasard et grâce à une erreur tactique extraordinaire de Théodoric, roi des Ostrogoths, que Clovis a pu envahir l'Aquitaine et finalement écraser le roi Alaric II à la bataille du Vouillé et avancer ses troupes jusqu'aux Pyrénées. Or, c'est au retour de cette expédition de l'Aquitaine que Clovis a été reconnu quasiment comme vice-empereur par l'empereur romain d'Orient et avec le titre de patrice, il se trouve être le plus grand dignitaire romain de tout l'Occident romain. Donc, il y a là un pari qui a été gagné grâce à une habileté tactique importante et il est en accord en tant que catholique avec l'Empire romain d'Orient, à ce moment-là, les hérétiques ariens étant sur leur déclin à partir de 507-511. La personne de Clovis est d'autant plus extraordinaire que roi à 14 ans, il meurt à 45 ans. Et ce règne extrêmement bref est en même temps un règne fondamental pour toute l'histoire du royaume et qu'il a créé. Ses fils achevant très rapidement la conquête en 436 pour les territoires burgondes, puis la Provence en 545. Et le royaume des Gaules devient un royaume tout à fait original dans l'Occident médiéval parce qu'il prétend se greffer sur l'héritage romain beaucoup plus que sur l'héritage germanique.
Il ne faudrait pas voir Clovis comme un personnage qui n'a pas de dessein politique. C'est vraiment en l'espace de 3 ans, c'est ce que vous appelez la construction inachevée, entre 509 et 511, 3 petites années où il a véritablement bouleversé et imprégné ces territoires d'une romanité.
Oui, parce qu'il a compris qu'au retour de son expédition, la population étant majoritairement gallo-romaine, les Francs étant eux-mêmes des soldats de l'armée romaine, il est indispensable de structurer ce peuple par un droit et qui soit le droit général de tous les Romains et qui est caractéristique de la civilisation romaine. Et c'est pour ça qu'il adopte, à peine de retour au nord de la Loire, un résumé de droit romain qui avait été fait par Alaric II, roi des Wisigoths, pour apaiser les populations gallo-romaines d'Aquitaine, et ce bréviaire d'Alaric, cet abrégé de droit romain, rappelle les points fondamentaux du droit romain qui font de la romanité une civilisation pacifique et constructrice de villes et d'ordre, puisque l'un des premiers articles du livre 1 du bréviaire d'Alaric consiste à dire « Nul n'est censé ignorer la loi » et par conséquent, nous sommes sur des principes que nous retrouvons chez les fondateurs du Code civil. Il y a là une pérennité dans la construction d'une civilisation qui se reconnaît dans la définition abstraite d'une série de lois permettant aux citoyens de vivre ensemble en fonction de principes essentiellement reposant sur le respect des personnes.
Il y a, dans les derniers mois de son existence, la promulgation du pacte de la loi salique, et c'est ce pacte qui fonde, en tous les cas, qui est dans la tradition romaine.
Et qui, de plus, est consolidé par la présence de jurisconsultes romains qui ajoutent des interprétations aux lois romaines et qui vont permettre au roi des Francs de promulguer des lois dans la perspective romaine, des capitulaires, comme on dira plus tard, qui exploitent les principes fondamentaux du droit romain, droit public, droit civil, etc., etc. Il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la continuité. La romanité, en quelque sorte, va continuer comme un canard à qui on aurait coupé la tête et qui continue à voler. La romanité continue avec Clovis. Et alors reste le problème des liaisons et des rapports avec les germaniques, qui sont essentiellement installés dans le nord du royaume. Une première série de mesures de Clovis peut paraître étonnante, mais on la retrouve un peu chez Clotilde plus tard. Il s'agit tout simplement de la suppression des règles de succession de type germanique. Et il n'y va pas de main morte, puisque finalement, il se débrouille pour éliminer physiquement tous les héritiers possibles en fonction des possibilités d'héritage qu'un système matriarcal réservé aux tribus germaniques. Tous les enfants issus d'une quelconque concubine du roi pouvaient avoir le droit à la succession. Clovis n'y va pas de main morte, il les fait assommer, égorger les uns après les autres, et va même jusqu'à pousser la duplicité, jusqu'à supplier, puisqu'il n'avait plus d'héritier, prétendait-il, qu'on lui en cherche à d'autres parmi ceux qui avaient été oubliés. C'est vous dire que là, nous avons affaire à un homme extrêmement intelligent et extrêmement rusé en même temps.
Vous dites le plus étonnant reste le jugement de Grégoire de Tours. Ainsi, Dieu prosternait chaque jour ses ennemis sous sa main et agrandissait son royaume parce qu'il marchait d'un cœur droit devant lui et faisait ce qui plaisait aux yeux de Dieu. Il y a malgré tout, et vous posez la question, et pourquoi Dieu aurait-il approuvé ces massacres à la hache ? Il y a ce que vous appelez finalement cette duplicité, puisque ces massacres, hein, puisqu'il faut bien appeler cela ainsi, suivent la conversion de Clovis.
Oui, après la conversion, c'est après le baptême. Nous avons affaire à un homme qui est encore dans une situation de double foi. Et qui reste intimement persuadé que les vieilles solutions germaniques doivent encore être appliquées, tout en étant finalement supprimé l'héritage par le second, ou par le troisième, ou par le quatrième, qu'il a pratiqué pour ses fils nés de Clovis, puisque le royaume a été partagé entre ses trois fils. C'est quand même un affaiblissement du pouvoir politique, et la civilisation romaine lui enseignait qu'il ne fallait pas partager le royaume entre ses héritiers. C'est donc une espèce de cote mal taillée, si j'ose ainsi m'exprimer, qu'il a pratiqué avec le massacre de tous les collatéraux, en préservant seulement la vie des enfants qu'il a eus de Clotilde.
Alors il y a un autre aspect des décisions de Clovis, en tous les cas de son action, c'est qu'il distingue bien le pouvoir temporel du pouvoir spirituel.
C'est exact, et il y a chez lui une très très grande habileté. Il s'est rendu compte que les structures politiques romaines ont fini par sécréter chez les aristocrates sénatoriaux de Gaulle des fonctionnaires qui obéissaient à Rome et qui avaient des connaissances du droit très poussées. Or, ce sont ces fonctionnaires qui, à la fin du Ve siècle, passent dans le clergé, passent dans l'épiscopat. Il y a donc un déversement des compétences administratives dans le clergé et dans l'Église. C'est donc de son intérêt de protéger l'Église et de faire en sorte que le gouvernement épiscopal soit un gouvernement qui consolide la structure de la société sur tous les plans, étant donné que les fonctions caritatives inventées par l'Église vont être de plus en plus aux mains du clergé, et que le clergé qui construit dans chaque cité les hôpitaux, les matricules des pauvres, les orphelinats, etc., etc., doit être comblé de biens fonciers pour avoir un budget important. Tout le budget social de la nation de l'époque est au fond assuré par l'épiscopat. Il faut donc que cet épiscopat soit bien nommé, et nommé très souvent par la main de Clovis, même si au préalable il y a élection des évêques et que ces élections prêtent souvent sujet à contestation. Et c'est pour cela qu'il décide de réunir un concile l'année 511 à Orléans, à la jonction de la partie romaine du Nord et de l'Aquitaine romaine. Et ce concile de 511 est réuni à la demande de Clovis, mais ça n'est pas lui qui fait voter les textes. On se rend bien compte que les canons qui ont été gardés concernent essentiellement des questions religieuses et aussi des questions politiques, ne serait-ce en particulier que l'interdiction pour les membres du clergé de venir des conseils municipaux. Mmh. Il s'agit de bien séparer la vie politique de la vie religieuse. Les sénateurs des cités qui votent les impôts et qui lèvent les impôts dans les cités ne peuvent pas devenir évêques. Il faut séparer les deux fonctions.
Mais n'est-ce pas là où, finalement, Clovis apparaît comme le plus révolutionnaire, dans le sens propre, dans la mesure où, vous utilisez un terme qui est fort, vous dites, il détruit les sociétés romaines et germaniques. Donc cette fois, il ne prend pas la romanité, même si elle existe sur le plan législatif, il refuse la germanité en détruisant cette parentèle, mais il fonde le roi, allez, je me lance, très chrétien, qui se doit de distinguer à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.
Il se lance effectivement dans cette perspective parce qu'il se rend compte que le monde romain doit pouvoir continuer tout en étant complètement changé par l'intervention de l'épiscopat. Et il a besoin que l'épiscopat soit en quelque sorte au service du roi et reconnaisse l'action du roi. C'est là d'une très très grande habileté de sa part, même si les gens qu'il fait nommer après élection à la tête de l'épiscopat sont des gens issus de la haute aristocratie sénatoriale romaine. Il sait que il aura des serviteurs qui lui seront fidèles.
Il se soumet au pape.
Il se soumet au pape. Il considère que les idées émises par les conciles écuméniques doivent être appliquées. Et parmi les différents points qui l'intéressent, il consolide une société qui reste encore une société à dominante esclavagiste avec des esclaves qui sont soumis à la loi romaine. Mais en même temps, il s'agit d'humaniser les structures ecclésiales puisque pour devenir prêtre, il est absolument indispensable qu'un esclave soit affranchi. Et par conséquent, c'est ainsi que commence déjà à partir de ce moment-là la fin d'un esclavage où la dignité de l'homme sera plus importante que son statut politique. Le statut politique juridique d'esclave deviendra inférieur et nécessitera un affranchissement pour rentrer dans la catégorie sacerdotale. Ce sont là des innovations qui, petit à petit, vont transformer une société, même si on ne se rend compte du résultat que beaucoup plus tard.
Michel Rouche, nous retrouvons dans un instant.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Je reçois Michel Rouche, auteur d'une biographie consacrée à Clovis, parue chez Fayard, et nous évoquons donc les dernières années du règne de Clovis. Nous avons évoqué l'aspect guerrier, l'aspect religieux qui est très important, l'aspect législatif. Venons-en, Michel Rouche, à la mort de Clovis. En fait, nous avons très peu d'éléments sur cette disparition.
Très très peu. Tout ce que l'on sait, c'est essentiellement la vénération qu'il avait à l'égard de Sainte-Geneviève et qui fait que celle-ci, qui est morte très âgée en 502 à plus de 82 ans, avait été enterrée dans un cimetière au sud-ouest de Paris, près de la paroisse Saint-Marcel. Et là, une basilique avait été construite sur la demande de Clotilde et de Clovis pour contenir le tombeau de Sainte-Geneviève, ce qui est déjà extraordinaire en soi. C'est la première fois qu'une femme est enterrée avec honneur dans un sarcophage à l'intérieur d'une église. D'habitude, c'était essentiellement des saints martyrs que l'on enterrait dans des basiliques. Et cette basilique, qui a été terminée avant la fin du règne de Clovis en 511, a vu ensuite le corps de Clovis être déposé à côté de Geneviève. C'est dire que Clovis rend en quelque sorte hommage au courage de cette femme et à la manière indomptable dont Geneviève a constamment agi pour arrêter la guerre civile entre les hérétiques ariens et les orthodoxes catholiques et d'autre part parvenir à obtenir la conversion du roi Clovis. Nous sommes devant un fait assez extraordinaire. C'est une diaconesse, ministère féminin qui a été abandonné plus tard dans l'Église, qui se voit rendre ainsi les honneurs et qui protège en quelque sorte le royaume qui vient de naître, d'autant plus que lorsque Clotilde meurt en 533, son corps est transporté de Saint-Martin-de-Tours où elle s'était réfugiée dans la prière pour expier ses crimes. Elle aussi, à son tour, est enterrée à côté de Clovis dans la basilique des Saints-Apôtres, là encore titre révélateur. Basilique des Saints Apôtres, ça veut dire basilique dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul, fidélité à Rome, église qui est devenue plus tard Sainte-Geneviève et qui a été, hélas, démolie entre 1805 et 1807, mal fouillée, ce qui fait que nous ne savons absolument pas où se trouvent le corps de Clovis et le corps de Clotilde. Il ne reste actuellement, pour ceux qui vont à l'église Saint-Étienne-du-Mont, que la base du sarcophage de Sainte-Geneviève, et encore pas en entier, puisque les reliques de Sainte-Geneviève ont été jetées à la Seine lors de la Révolution française. Mais vous le voyez, le symbole de la femme fondatrice est ici important parce que c'est, au fond, rendre hommage à quelqu'un qui a vu clair et qui a su réunir un pays en état de guerre civile et qui a permis en même temps, ce qui a eu lieu plus tard, la conversion des autres francs au catholicisme, conversion très lente, puisqu'il faut bien préciser que la conversion de Clovis était un acte unique, alors que la conversion des francs n'a eu lieu que vers 720-740. C'était donc bien un acte de liberté personnelle.
Alors, l'œuvre est inachevée, hein, c'est le titre de votre chapitre relatant la mort de Clovis. Mais il y a Clotilde, et vous l'évoquiez tout à l'heure, le rôle des femmes est très important. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la mort, la disparition de Clovis, d'un retour à la germanité ?
Ce risque est réel. Il a eu lieu d'ailleurs lors de la mort d'un premier fils au combat de Clovis, puisque Childebert et Clotaire sont allés trouver leur mère Clotilde et lui ont demandé l'autorisation d'exécuter les enfants de leur frère défunt, ce qu'elle a autorisé dans une perspective typiquement matriarcale, étant donné que les tribus germaniques anciennes avaient un système matriarcal qui a duré très très longtemps. C'est une espèce de retour du refoulé qui a eu lieu à ce moment-là, et Clotilde en a été absolument amertumée, comme dit Grégoire de Tours, au point de se réfugier dans le sanctuaire de Saint-Martin de Tours et d'y faire pénitence pendant une bonne quinzaine d'années. Mais le retour à la germanité était possible avec les querelles entre frères. Et l'abandon du système germanique, du partage du pouvoir entre les frères, a mis énormément de temps à disparaître de la tradition du royaume des Francs. On trouve encore l'idée du partage du royaume entre les frères jusqu'à l'époque de Robert Ier. La germanité a eu la vie dure. Elle avait quand même été, en quelque sorte, sérieusement entamée pour Clovis, mais les pratiques germaniques ont eu la vie dure. Et on le voit en particulier sous le règne de Charlemagne, alors que Pépin le Bref, lui, a eu plutôt, d'autant plus qu'il était le premier roi à être intégralement élevé par des moines, une pratique catholique au contraire de Charles Martel ou de Charlemagne. Il y a là des soubresauts de la germanité qui ont eu lieu et qui ont fini par disparaître avec le temps. L'élan avait été donné par Clovis, mais effectivement sa construction était inachevée, il est mort trop tôt.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est, et vous le venez de le dire, c'est cette seconde conversion en quelque sorte de Clotilde, puisque c'était une femme convertie.
Et depuis probablement plusieurs générations. Mais l'exercice du pouvoir est quelque chose de terrible. Et la libido dominandi, lorsqu'elle travaille même les chrétiens, et surtout les chrétiens, peut parfois faire des retours en arrière absolument extraordinaires. Il est fort possible que Clotilde, comme d'autres membres de la famille, d'autres femmes que l'on voit agir plus tard à l'époque de Clotaire Ier ou de Childebert Ier ont eu des comportements de ce type qui ont particulièrement révolutionné et révolté le clergé de Gaule mérovingienne, ne serait-ce par exemple que Brunehaut et Frédégonde plus tard. On a affaire vraiment à des comportements germaniques, mais il n'empêche qu'ils provoquent la révolte, ils provoquent le refus. Par conséquent, quelque chose de changé a vraiment eu lieu.
Alors, nous n'allons pas parler de nation à cette époque. En revanche, on peut sans doute dire que c'est la fin de la Gaule romaine.
C'est pas la fin de la Gaule romaine. C'est la fin d'un système politique centralisé sur Rome. Et c'est la continuité d'une civilisation romaine avec une énorme capacité de fusion avec les caractéristiques germaniques des peuples qui l'environnent. Et si bien que l'époque mérovingienne est une époque de, en quelque sorte, de digestion des pratiques germaniques, avec un retour en force de la romanité à l'époque de Charlemagne, et finalement, dans un système chrétien qui finit enfin par christianiser la société, il y a construction qui s'achève petit à petit, par exemple, dans une civilisation de chrétienté où le divorce est normalement refusé par l'Évangile. Saint Augustin avait essayé d'obtenir cette interdiction de l'empereur romain Honorius, il avait échoué. Eh bien, il faut attendre Pépin le Bref en 744 pour que le divorce soit interdit. Autrement dit, nous assistons à une christianisation très lente. Et c'est peut-être parce qu'elle a été lente qu'elle a été très forte.
Vous avez un terme, vous parlez d'unité dans la diversité. Que Clovis représente cette unité dans la diversité, à la fois romaine et germanique.
Oui, parce qu'il n'a pas procédé par interdiction systématique. Il a procédé en contournant les obstacles. Et c'est un homme d'une très très grande habileté qui a su avancer à pas lents, malgré les défaites, qui a pu petit à petit obtenir ce qu'il cherchait, même s'il n'a pas totalement terminé son programme.
Ce qu'il y a d'étonnant, on en revient finalement à cette conversion, c'est qu'il y a du visionnaire chez ce Clovis qui ne voit pas son intérêt propre.
Il y a quelque chose de visionnaire effectivement chez cet homme qui s'est demandé quel est le meilleur moyen de faire vivre ensemble tous ces gens-là. Et sur ce plan-là, il est évident qu'il a compris que l'orthodoxie catholique était un système beaucoup plus constructif que le système arien, lequel système arien a effectivement échoué avec Théodoric en Italie, échoué en Espagne visigothique avec Récared, échoué en Afrique vandale avec les rois vandales, etc., etc. Il y a donc eu chez lui une vision d'avenir.
Comment vivre ensemble, une leçon donc pour nos hommes politiques, même encore aujourd'hui. Et c'est sur ces mots, Michel Rouche, que nous allons nous quitter. Je rappelle les références de vos ouvrages, donc Clovis, paru chez Fayard, Les origines du christianisme, paru chez Hachette, et je renvoie bien évidemment nos auditeurs à l'émission avec enregistrée, donc que vous avez enregistrée avec Damien Leguet, ainsi qu'à l'émission consacrée à Attila, puisque vous avez écrit une biographie chez Fayard, consacrée donc à Attila. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.
À bientôt.